Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger Chin 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, Chin 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes de la conscience radio Alger Chin 3. Nous sommes avec vous, grâce à Dieu, tous les vendredis à 5h et à 14h pour moins d'une heure, dans une tentative de comprendre les faits qui nous entourent, les décortiquer pour les relier et leur donner une connexion avec les préceptes de l'islam, un islam de sagesse, de justice, de droit, mais aussi d'éveil et de préparation aux événements à venir et qui ne seront pas de tout repos pour toute l'humanité, pas que pour les musulmans. Ceux qui auront l'occasion, la chance ou la malchance de les vivre doivent être outillés et prêts à agir sous toutes les configurations. Nous le voyons autour de nous, les choses s'accélèrent et nous allons droit devant à la concrétisation des prophéties anciennes et des alertes et prédictions de Sidna Mohammed alayhi salatu salam, Sayyidu Taqalayn wa Madinatul Ilm. Salam alaykum Kamal Shekat.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dieu subhanahu dans la sourate An-Nur nous rappelle l'accusation que les hypocrites ont fait porter à la mère des croyants Sayyida Aisha radiyallahu anha, la tahsabuhu sharron lakum bal huwa khayron lakum. Gaza, la Palestine et tous les musulmans sont en train de vivre aujourd'hui une des plus grandes crises. Les décès et les blessés se comptent par centaines par jour. La destruction des infrastructures de base à Gaza et le pilonnage interminable est plus qu'achevé sous l'œil approbateur de quelques frères arabes et musulmans qui pensent que le déluge d'Al-Aqsa n'a fait qu'attiser la haine et la rage des esclaves du Dajjal. J'utilise cette expression parce que vous avez, Kamal Shekat, émis le vœu de ne plus donner cette appellation de Ben Israël aux sionistes qui occupent la Palestine, donc je poursuis. Les esclaves du Dajjal sont en train d'en finir avec les Palestiniens, selon nos frères Mutabirin, alors qu'à l'opposé, les victoires de Hamas, de Kata'ib al-Qassam, de Saray al-Aqsa et de toutes les forces qui sont sur le terrain et qui représentent Fustat al-Iman n'en finissent pas. Mieux encore, les conversions des Occidentaux à l'islam sont de plus en plus importantes et racontées et narrées dans les réseaux sociaux. Cela nous rappelle un accord passé entre les musulmans et les infidèles en l'an 6 de l'Égir et qu'on pensait que c'était un traité qui allait prononcer la faiblesse des musulmans, alors que les conversions qui se sont réalisées après Sulh al-Hudaybiyah étaient plus importantes que toute la période du message, donc avant l'an 6 de l'Égir.
Absolument, oui. Wa la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Sourate An-Nur, ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, c'est plutôt un bien pour vous. Vous avez bien fait aussi de relier tout cela à Sulh al-Hudaybiyah. Les musulmans étaient dans un état mental tellement bas qu'à un moment donné, le messager de Dieu alayhi salatu wasalam, a eu peur pour eux. Il a décidé de faire, d'accomplir le rituel de la Umrah là où ils étaient. Et personne, quand il leur a dit d'aller se raser, personne n'a voulu le faire. Et donc,
si c'était Umm Salama.
Oui, une femme qui vient, qui donne le bon conseil, sors, fais-le toi-même et ils suivront. Parce qu'il a eu peur pour eux de recevoir la malédiction justement des esclaves. Vous avez dit les Abna ou Dajjal.
Les esclaves du Dajjal.
Non, mais ils ne sont même pas arrivés jusque-là. C'est les sionistes de confession juive qui sont actuellement en Palestine occupés sont les chiens des esclaves du Dajjal. Ils ont été instrumentalisés par les adeptes du nouvel ordre mondial qui sont des satanistes pour faire leur œuvre là-bas.
Pour accélérer la sortie.
Oui, il faut, pour comprendre tout cela, il faut étudier un peu ce qu'on appelle le congrès Bannerman, Campbell Bannerman, 1907.
Expliquez.
C'est là où on a décidé d'implanter dans le corps dit arabe ou arabo-musulman un cancer, un virus qui va déjà en un premier temps faire la rupture entre l'Orient musulman et l'Occident musulman. Ça en un premier temps. Et puis, fomenter des complots, des guerres, des vindictes et
créer des gens groupes passent. Séparatistes.
Oui, c'est ça. Donc finalement, l'histoire se refait. Hein. Le mal et le mal, il fait son œuvre comme il l'a toujours fait. Les trahisons sont là comme elles ont toujours existé. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes face à la vérité. L'islam, c'est la vérité. Et cette vérité, personne ne peut l'éteindre, personne ne peut l'effacer, personne ne peut l'anéantir. Vous savez, il s'est produit avec la chute de Bagdad ce que personne n'aurait pu soupçonner.
La chute de Bagdad de 1258 ou 2003 ?
Non, 1258,
très bien.
Avec les Mongols. Généralement, c'est toujours le vaincu qui suit le vainqueur. Après la chute de Bagdad, c'est le vainqueur qui a suivi le vaincu. Et les Mongols, qui sont devenus des musulmans, ont donné naissance à toute une civilisation en Inde.
À Bukhara,
un peu partout, ouais. Là où ils étaient. Et le problème, c'est que là encore, le mal...
Les protozoaires étaient justement des descendants de Holako.
Oui, certains disent... Bon, il y en a d'autres qui étaient parmi les Mamaliks, qui faisaient partie des Daylem, c'est-à-dire des Turkmènes, etc., des Kurdes. Mais en tout cas, pour parler du mal... Ces gens, ils ont bâti, c'est eux qui ont fait le Taj Mahal, etc. Ouais. Toute la beauté qu'on connaît en Inde actuellement. Vous savez, le tourisme en Inde actuellement, tous ceux qui vont faire du tourisme là-bas, ce qu'ils vont voir, c'est des sites musulmans.
Exactement. C'était l'ère de la tolérance pour une fois en Inde.
Oui, et quand les Anglais sont arrivés là-bas, ils ont chassé les musulmans de Delhi. Ils lui ont donné le nom de New Delhi et ils ont ramené les adorateurs de vaches qui étaient dociles, qui étaient prédisposés à la servitude. Qabilit l'istiamar, comme disait Malik ibn Abi rahmatullahi alayh. C'est l'histoire qui se refait. Et là, on a des gens qui viennent, après plus de 4000 ans d'existence arabe sur cette terre de Palestine, vous dire « Oui, c'est une terre qui nous appartient, c'est Dieu qui nous l'a donnée. » Dieu ne vous a rien donné. Dieu vous a offert une terre que vous avez appelée la terre promise, et voilà que vous l'avez refusée. Vous avez refusé le cadeau de Dieu. Donc, que pourriez-vous espérer après cela? Et donc, le mensonge, et tout est en train de se refaire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'islam, qui est religion de Dieu, ou seule religion de Dieu, restera toujours là parce que c'est la volonté de Dieu. Et puis, quand vous dites « La tahsabouhu sharran lakum », ne pensez pas que ce soit un mal pour vous. Il y a des cercles animés par les Sayani, mais appartenant justement aux adeptes du gouvernement luciférien, qui ont tiré la sonnette. Parce que la majorité des conversions que l'on remarque en Occident, c'est des femmes. Et ces gens-là, justement, là où ils veulent introduire le vice, là où ils peuvent corrompre les sociétés, c'est toujours par le biais de la femme et du féminisme. Ne l'oublions pas, le féminisme. C'est une arme destructrice, c'est une arme qui a été suscitée par Rockefeller et comparses juste pour détruire les sociétés, pour détruire la cellule familiale. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a un grave problème dans la mesure où ce sont des femmes qui se convertissent à l'islam. Si ces femmes se convertissent à l'islam, ce sont donc des femmes qui vont produire, qui vont perpétuer cet esprit islamique, cette culture de l'islam. Et là, ça fait plus peur.
Donc elles vont influencer leur entourage.
Absolument. Ça fait plus peur à ces gens-là que le fait que ce soit des hommes qui se convertissent à l'islam. C'est par la femme que tout bien entre dans la société, c'est par elle aussi que tout mal entre dans la société. Et je dis cela parce que son influence, elle est de loin plus importante que celle de l'homme.
Et puis c'est elle qui éduque les générations.
Absolument,
Kamel Chekat, on m'a déjà fait la remarque à chaque fois que vous évoquez le féminisme. On me dit pourquoi Kamel Chekat s'attaque-t-il assez souvent au féminisme alors que les femmes algériennes ont beaucoup subi et que là, elles ne demandent que le retour de la justice à son endroit.
Oui, je ne suis pas contre le fait que les femmes revendiquent leurs droits. Je suis opposé à toute idée de féminisme parce que c'est une manipulation, c'est une manigance, c'est une mise en scène qui a été montée de toutes pièces par des gens mal intentionnés. Le jour où on a créé la première revue féministe, c'était juste parce qu'on s'était rendu compte que la femme était un porte-monnaie assez important. Un portefeuille client d'une importance incroyable. Et ces gens-là, ils ont ensuite travaillé sur tout un système psychologique d'influence pour que les femmes aillent dans ce sens du féminisme. Le féminisme n'est pas du tout viable pour une société qui se respecte. Une fois, j'ai dit justement à une femme, pourquoi ne revendiquez-vous pas vos droits par le biais de la religion? Elle a dit, je ne suis pas dans l'obligation de prendre l'islam comme référence. Et donc là, vous comprenez que justement, il y a comme une guerre qui s'est organisée expressément contre l'islam. Pas contre le judaïsme, pas contre le christianisme, mais contre l'islam. Parce que l'islam, il pose problème pour cette culture du tube digestif que l'Occident veut imposer au monde entier. Il pose problème pour toutes ces tendances déviationnistes telles que les LGBT, les hommes-chiens, j'en passe. Il pose problème pour le système financier mondial qui est un système usuraire. Et c'est pour cela que l'islam, il faut l'éradiquer, il faut l'enlever. Si les femmes veulent des droits, elles n'ont qu'à les défendre au nom du bon droit, tout simplement.
Kemal Chekat, les derniers temps, on a vu sur certains réseaux sociaux quelques révélations, quelques confidences d'anciennes féministes qui ont dressé des tableaux pas du tout jolis de ce qui se passe dans les loges du féminisme.
Absolument.
Kemal Chekat, est-ce à dire que cette apparition du féminisme au 19e siècle, est-ce à dire que les premières musulmanes étaient de parfaites soumises?
Non, elles étaient...
On connaît des noms, les manuels de Sira, on donnait beaucoup de noms de femmes qui étaient vraiment fermes, qui avaient une grande influence.
Écoutez, il y a des femmes qui avaient une personnalité très très forte. Elles se sont faites remarquer à travers l'histoire. Mais les autres femmes, les femmes de Médine par exemple, vous savez qu'à Médine jusqu'à présent, il y a ce que nous appelons Souqoun Nisa, un marché où seules les femmes se livraient au négoce. Quand les hommes pénétraient ce marché, c'était en tant que clients. Et là, il y a des gens qui viennent vous dire « Non, mais attends, c'est obsolète, c'est je ne sais quoi. » Soyez sérieux. Une fois, c'était dans une rencontre, il y avait un groupe de femmes. Je leur ai dit « Écoutez, il y a un très très grand, une personnalité assez importante, un psychologue qui était spécialiste de... Il y a une école de psychologie qu'on appelle la Gestalt. »
C'est aussi un courant philosophique immensément connu aujourd'hui et même dans le développement personnel.
C'est une école allemande.
Ouais.
Dont les conclusions étaient très très proches de toutes celles émises par les spécialistes en neurosciences. Le monsieur, il vient, il vous dit, écoutez, l'homme a une vision qui est rétrécie, qui est serrée, pourquoi ? Parce qu'il a été conditionné pour le tir de précision, parce que c'est lui qui rapporte le gibier à la maison. La femme, elle a une vision large, pourquoi ? Parce qu'elle doit surveiller les enfants. Vous dites ça, vous balancez ça dans une conférence. Ah, ça fait un tollé. Non, mais attendez, là, actuellement, il y a des femmes qui vous disent « Ah, moi, ce livre, l'abou fil amali wal homo fil motbach, moi, je refuse ça. » Pourquoi vous le refusez? Comme ça, parce que nous n'avons pas été suscités pour faire la popote. Pourquoi pas? Votre mère l'a fait, votre grand-mère l'a fait, ça ne les a pas diminués, à ce que je sache.
À chacune d'elles de créer sa situation ou la situation qui lui convient à sa nature et à ses valeurs, c'est peut-être même un faux débat et l'essentiel est ailleurs.
Absolument. Les femmes, écoutez, ça peut offenser certaines femmes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme en question, il n'est pas porteur d'une idéologie, il ne défend pas une philosophie qui est la sienne. Il est là, il parle au nom de constatations qui émane d'un certain nombre d'expériences dont il est en train de parler d'une science. Quand on voit maintenant des gens nous parler de théorie, la théorie du genre, qui n'a ni queue ni tête, et qui refuse justement des conclusions plus que scientifiques dans ce domaine, pourquoi s'offenser? Pourquoi s'offusquer? Est-ce que le fait qu'une femme soit femme au foyer minimise la femme?
Pas du tout.
Pas du tout. Est-ce que le fait qu'une femme se marie et des enfants, fasse la cuisine, fasse le ménage chez elle, fasse d'elle une soumise, un être humain de seconde zone ou de type 2. C'est pas du tout vrai. C'est la culture de l'époque, c'est la culture actuelle qui nous impose ces dictats. C'est pour cela qu'il est temps, je parle pour les femmes qui sont dans ces pays, qui ne sont pas 10 pays occidentaux, hein, dans les pays musulmans essentiellement. Il faut défendre les droits de la femme, mais il faut les défendre au nom du bon droit. Ne nous ramenez pas des concepts venus d'Occident qui ne valent absolument rien, qui ont prouvé leur faillite, et là vous venez nous les imposer, comme c'est le cas avec tout ce que font tous ces appendices de l'ONU, qui est pratiquement le premier ministère du nouvel ordre mondial, qui est celui de Lucifer. C'est pour ça que je ne rejette pas le féminisme, je le vomis, tout simplement. Même déjà le fait de dire féminisme, je suis féministe, pour moi, c'est une forme de sexisme. On défend les droits des êtres humains parce que ce sont des êtres humains, mis à part le sexe, l'identité sexuelle ou je ne sais quoi. On défend un homme parce qu'il mérite d'être défendu et on défend une femme parce qu'elle mérite d'être défendue. L'islam n'a pas fait de la femme un problème qui nécessite d'être résolu. L'Occident en a fait un problème pour créer ensuite des solutions et ces solutions-là passent généralement par le porte-monnaie. Il faut être belle, donc il faut consommer du maquillage.
Il faut être, c'est ça.
Et ensuite, justement, il est là le problème.
Même si Barbie est interdit, a été interdit en Algérie.
Oui, le problème, c'est qu'à la fin, Barbie, on ne sait plus si c'est une femme qui veut être femme ou si c'est une femme qui veut être un homme. C'est ça le problème.
Vous faites bien de parler de l'ONU, Kamel Chekat, parce que ma prochaine réflexion concerne justement l'ONU. Et si on revenait à cette actualité, donc, et à ce qui est en train de réaliser tous les moudjahidines sur le terrain à Gaza, c'est quelque chose d'immense. Et les positions des uns et des autres sont en train de franchir des limites inimaginables avant cela, avant le 7 octobre. Des lignes rouges sont franchies même. Mais là, donc, je voudrais parler de l'attitude du secrétaire général de l'ONU et l'invocation de l'article 99. Le secrétaire général de l'ONU, à travers ses premières déclarations déjà au début du déluge d'Al-Aqsa, nous révélait que cet homme n'allait pas rester les bras croisés face à l'épuration du peuple palestinien à son pilonnage et que le prix qu'il avait reçu antérieurement, prix Theodor Herzl, n'allait pas lui clouer le bec. Kamel Chekat.
Absolument. Ça veut dire que l'homme n'a pas été acheté, on n'a pas pu le soudoyer. En tout cas, je pense que l'histoire va encore se refaire.
Dag Hammarskjöld, Boutros Ghali, je crois, avait aussi invoqué l'article 99 pour le Congo et Boutros Ghali, je ne me rappelle plus pour quel pays.
Non, Boutros Ghali, je ne pense pas qu'il ait eu assez de courage pour faire ça. Généralement, les Arabes n'ont pas ce courage. Je suis arabe, au cas où certains pourraient penser que je ne le suis pas, que je fais un peu de racisme.
Javier Pérez de Cuellar, oui, en 85. Ouais.
En tout cas, comme je viens de le dire, l'histoire, je pense qu'elle est en train de se refaire. Bernadotte, qui a été envoyée justement par la Société des Nations en Palestine, à cause des conflits qui sont nés dans les années... J'ai oublié l'année, mais en tout cas, c'était, je crois, juste avant ou juste après que se soit tenue cette cour britannique qui a décrété que l'esplanade des mosquées, le mur dit de Jidar al-Buraq, Harat al-Maghariba, qui est appelé par la suite ou baptisé par la suite mur des lamentations, encore un mensonge de l'histoire, ouais, que tout cela appartenait aux musulmans. Et Bernadotte a été tué par les terroristes juifs, les Stern Haganah. En tout cas, quand il a été tué, ça a prouvé la faillite de la Société des Nations. Je pense que cette histoire de Tofan
Al-Aqsa... Société des Nations, non, c'était l'ONU, hein, puisque c'était en 48 qu'il a été donc décrété médiateur en Palestine.
D'accord.
En 48.
Mais en tout cas, la Société des Nations, elle est tombée justement à cause de la question palestinienne.
Isabat al-Umam.
Ou Usbat al-Umam. Oui, c'est beaucoup plus Isaba que Usba. Et là, je pense que maintenant, tout président qui se respecte devrait retirer son pays de cette organisation qui nous a démontré, il n'y a pas très très longtemps, qu'il y avait dans cette assemblée, dans ce balai des hypocrites, des pays ou des entités qui ont une voix et des entités, aussi nombreuses soient-elles, qui ne pèsent absolument rien. Et l'on a vu le veto américain s'opposer à une volonté mondiale et s'opposer aussi à la volonté des peuples occidentaux qui sont opposés à leurs administrations et à leurs politiques respectives.
Cet éveil, Kamel Chekat, on verra d'autres épisodes pareils,
cet éveil,
d'Antonio Guterres.
Je l'espère en tout cas. Mais cet éveil, il n'y a qu'une appellation valable pour tout cela. On appelle cela le phénomène coranique. C'est encore un terme qui a été inventé par Malik ibn Nabi, rahmatullahi alayh. C'est ça le phénomène coranique. Battez-vous autant que vous le pourriez. Faites ce que vous voulez. L'islam muntasir. Sha'a man sha'a wa kariha man kariha.
Inna Allah yudafi'a 'ani alladhina amanu.
Oui.
On est dans ce verset comme le chakat.
Les gens de Gaza le sont et ils l'ont démontré. Si nous arrivions à tirer profit de toutes ces leçons, peut-être que nous réaliserions beaucoup plus de miracles que ces gens-là. En tout cas, bon, je sais que les sionistes n'ont pas de cervelle, mais au moins que les musulmans essayent de revenir un peu dans l'histoire. J'aimerais bien que nos musulmans tirent profit de ce que donne justement cet épisode que nous sommes en train de vivre comme leçon. Pharaon a fait un rêve, un songe, où il se voyait menacé par une entité, un homme émergent de la communauté juive. Avant ce rêve, les juifs étaient très très bien traités par Pharaon. Les bas-reliefs l'ont dûment démontré. Ils étaient payés, ils avaient en tout cas sur le plan social, ils étaient bien nantis. Ils avaient des médecins, ils étaient bien nourris, etc. Ils n'étaient pas sous le joug. Mais quand il a pris peur d'eux, il a commencé à les maltraiter. Il tuait donc les mâles une année sur deux. Et il s'est trouvé que Moïse alayhi salam est né pendant l'une des années où les mâles étaient automatiquement tués à leur naissance. Moïse était appelé à être l'un des prophètes majeurs de Dieu. Vous savez, il n'y a que deux prophètes qui aient eu ce profil. Il y a Moïse alayhi salam et Mohammed alayhi salatu salam. Personne n'a été à cette hauteur. Porteur d'une loi, dompteur de foule, un charisme terrible. Et pourtant, justement, cet ennemi, c'est Pharaon lui-même qui va le prendre en charge. C'est lui qui va lui donner l'instruction nécessaire. Il a fait les grandes écoles de son époque, Moïse alayhi salam. Churé parle de lui dans un livre qui s'intitule Les grands initiés. Il faut lire ce livre très très ancien. Et les livres anciens, il faut commencer à les lire parce que c'était un moment de l'histoire où les Juifs, justement, les sionistes n'avaient pas la même mise sur l'édition, sur les médias, etc. L'histoire se refait. Prenez quelqu'un comme Sinwar, un homme d'une intelligence incroyable.
Yahya Sinwar.
Qui est-ce qui va préserver Yahya Sinwar? Qui est-ce qui va lui donner matière à vivre, à évoluer, à réfléchir et à produire justement tout ça? C'est les Israéliens, ou ce qu'on appelle indûment les Israéliens. Sinwar a été emprisonné à trois reprises. La troisième reprise, qui est la plus longue, avant qu'il ne soit libéré, quand il y a eu l'échange des prisonniers après l'affaire de Gilad Shalit, Sinwar a eu un cancer. Il avait une tumeur au cerveau. Qui est-ce qui va le sauver, justement, du cancer? C'est les sionistes. Il est opéré, il va guérir, et c'est eux qui vont donc lui donner matière à terminer son œuvre. Tout ceci veut dire que quand Dieu a décidé quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Il faut que nos musulmans...
Et d'un pour Hamas, Kamal Shakat, hein, en 2012, c'est le même Netanyahu
qui avait demandé
à ce qu'on finance Hamas parce qu'il valait mieux avoir Hamas face à soi plutôt qu'un autre groupe extrémiste.
Oui, les choses ont évolué. Et aussi pour les opposer à ce qu'on appelle l'autorité palestinienne sans autorité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Et c'est pour cela que, je ne sais pas, nous, actuellement, dans cet état de faiblesse que nous subissons, que nous vivons, nous n'avons que des prières que nous pourrions adresser, puis nous pourrions éventuellement aider financièrement. Parce qu'il va y avoir une reconstruction de Gaza. Gaza, selon mes connaissances, le nom de Gaza, anciennement, signifiait la forte, la ville forte. C'est une ville tombeau pour tout agresseur. Tous ceux qui ont attaqué Gaza ont péri. Et là, maintenant, c'est justement cette entité sioniste qui va périr, bi'idnillah. Nous savons justement à l'avantage de qui tout cela va tourner. Ferons-nous partie des vainqueurs? Est-ce que nous qui sommes là, nous serons considérés comme vainqueurs? Là, il va falloir justement être à fond en faveur de cette cause pour être considérés comme vainqueurs. Il n'est pas nécessaire d'être sur place, d'avoir une arme entre les mains et de combattre les sionistes. Il faut les combattre par tous les moyens qui sont à notre disposition. Et avec le cœur aussi. Est-ce que nous le faisons? Ma foi, moi, quand je vois certaines personnes ici à Alger en train de boire une boisson qui finance à fond l'armée de Tsahal, je me dis que nous sommes assez loin de cette prise de conscience que nous devrions avoir.
Merci de rester avec nous comme chaque vendredi sur Radio Alger Chien 3 et dans votre émission Au cœur de l'Islam. Merci à tous les auditeurs qui nous écrivent beaucoup de choses intéressantes et beaucoup d'encouragement, surtout sur notre page x.com Au cœur de l'Islam Chien 3. Kamel Chekat, donc aujourd'hui c'est le sixième numéro consacré au messianisme, une émission qu'on a commencé juste après donc le déluge d'Al-Aqsa, signé le 7 octobre 2023. Et vous insistiez sur l'islam comme dernier rempart contre la mondialisation. Et tout à l'heure, en évoquant Melk Ben Nabi, je me suis rappelé de ce terme, de ce néologisme qu'il avait fait par rapport à la nordisabilité qui est la mondialisation. Et beaucoup d'observateurs, de philosophes l'ont dit sur beaucoup de plateaux, des émissions podcast, que Gaza a réussi ce que beaucoup de forces n'ont pas pu réussir aujourd'hui, même avant, c'est la chute du libéralisme et de la mondialisation, grâce à ce qu'a pu donc générer comme éveil, comme retour du bon droit dans les têtes de certains d'entre
eux. Oui, absolument. Justement, cette culture du mensonge dans laquelle nous vivons, elle est due à ces gens qui travaillent pour la concrétisation de ce nouvel ordre mondial. Tout est basé sur le mensonge. Et c'est drôle quand il y a des versets du Coran que vous pourriez lire des milliers de fois, mais que vous ne comprendriez que suite à la réception d'une information. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder les informations par exemple, et hop, il y a une information comme ça qu'on vous balance, ou un fait qu'on vous narre, et vous comprenez que finalement vous êtes plein pied dans ce verset. Quand Iblis, alayhi minallahi ma yastahiq, s'est rebellé contre Dieu, il avait assez de retenue et d'intelligence pour ne pas abjurer, pour ne pas dire à Dieu « Je ne te reconnais pas en tant que Dieu ». Kafartu bik, comme le font certains êtres humains.
Comme l'a fait Nemrod. Hein.
Oui, ou même Pharaon qui s'est autoproclamé Dieu. Lui, il a dit « Fabi'izzatik ». C'est d'une mais alors ce sont des paroles d'une beauté terrible. Ça dénote une science, une connaissance de Dieu qui n'a pas d'égal.
Min al-muwahhidin, Iblis ?
Bien sûr, c'est un mouahid, il ne reconnaît pas d'autre divinité que Dieu. Mais le kofr ici, quand nous disons kafir, la mécréance, elle peut être pratique aussi, kofr amali. Remarquez ce hadith du messager de Dieu, la ta'oudou ou la tarji'ou ba'diya kuffaran, le fait de s'entretuer comme ça fait de nous des mécréants, mais pas des mécréants sur le plan doctrinaire, dogmatique, mais des mécréants sur le plan pratique. Il y a beaucoup de mécréance dans les sociétés musulmanes, mais qui est d'ordre pratique. Elle n'est pas liée à ce que nous appelons en langue arabe l'aqida, le dogme. C'est pas dans le cœur que ça se passe, c'est dans la pratique elle-même. Donc, Iblis, dans d'autres versets, il va demander à Dieu de lui prêter vie jusqu'à la fin des temps, afin qu'il donne l'argument qu'il avait présenté. Je suis meilleur que lui. L'homme est enclin à la déviation, il est enclin à la faute, etc. Et il va dire à un moment donné, wa la amurannahum falayughayyirunna khalq Allah. Je leur donnerai l'ordre et ils changeront la création ou la créature de Dieu ou la nature même des créatures de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Quand vous savez que dans les slogans publicitaires, on est passé à un cran supérieur, les LGBT ont créé une chanson qui dit au monde entier, dites à vos enfants que nous arrivons. Oui, c'est-à-dire que c'est une guerre ouverte contre la nature humaine elle-même. Ces gens-là qui passent leur temps à parler de démocratie, de droits de l'homme, de liberté, de conscience, de culte et je ne sais quoi, ils sont dans l'unipolaire, dans une vision unipolaire qu'ils veulent imposer à tout le monde. Ce n'est pas de la civilisation, ce n'est pas de l'émancipation, sur aucun plan que ce soit. C'est de l'occidentalisation qui mène droit dans un mur. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et honnêtement, personne ne peut argumenter le contraire.
Mais expliquez comme un chocot, dites à vos enfants qu'on arrive, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on va tout changer, vous allez tous devenir comme nous. Vous savez, il m'arrive comme ça de travailler sur des sujets qui deviennent récurrents au niveau des médias. Et justement, je me posais dernièrement une question. Pourquoi tous ces pouvoirs en place font-ils la promotion de l'homosexualité, du transgenre, d'une multitude de néologismes qui sont tous contre nature. Pourquoi ?
Très in d'ailleurs.
Oui, pourquoi ? Parce que ces gens-là sont des gens qui sont prédisposés à la soumission. Pour peu que vous leur donniez la possibilité de satisfaire leur vice, parce que c'est un vice, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est ce que veulent justement ces gens qui sont dans la sphère restreinte d'Iblis, alayhi min Allahi ma yastahiq. Ils ont besoin justement d'une population mondiale réduite, très très réduite, à hauteur d'1 milliard, 1,5 milliard, qui travaille pour eux sans revendiquer de droits. Et c'est pour cela que l'islam pose problème. C'est pour cela que il y a des gens, le premier que j'ai entendu parler d'islam en tant que dernier rempart, c'est Michel Collant. Et il y a d'autres grands penseurs à travers le monde qui ont parlé justement de l'islam en tant que dernier rempart. Le seul levier qui reste pour l'humanité afin d'éviter la grande catastrophe, c'est justement la religion musulmane. Parce que les autres religions, elles ont été dévoyées par ce nouvel ordre mondial.
Kemal Chekat, dites à vos enfants qu'on arrive, ceci est tout un programme
oui,
de
absolument.
Lutte contre tous ceux qui se trament contre l'islam et les musulmans. Quelle pourrait être la solution? Comment donc? J'insiste sur ce terme, hein, l'éveil, parce que c'est vraiment ce qu'il faut actionner aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent de dormir, Kemal Chekat.
Et écoutez, justement, ça devient très très grave. Il y a quelques jours, il y a eu une chaîne, je ne sais plus laquelle, une rediffusion d'un film d'animation très très connu. On peut donner normalement les titres,
oui,
c'est pas des
sûr,
marques.
Oui.
C'est La Reine des Neiges 2. Mmh. La Reine des Neiges, alors il y a le 1, il y a le 2. Alors dans La Reine des Neiges 1, nous avons affaire à une héroïne qui a un problème dû à une sorcellerie, etc. Et puis il y a sa petite sœur qui essaye de l'aider à s'en sortir. Et puis c'est une très très belle histoire, hein, que tous les enfants peuvent regarder. Le film, c'était un succès planétaire, donc je vous raconte pas les produits dérivés. Vous avez une fille, elle veut un cartable, il faut que ce soit La Reine des Neiges. Elle veut un t-shirt, c'est La Reine des Neiges. Il faut que La Reine des Neiges figure partout. D'ailleurs, cette personnalité virtuelle, le succès était tel qu'elle a détrôné Barbie. Ensuite, il y a eu le 2. Dans le 2, cette même princesse et sa petite sœur vont apprendre que leur grand-père était un vil personnage qui avait massacré une tribu, etc. Donc elles vont dans cette tribu plus ou moins primitive pour essayer d'éviter un cataclysme, une malédiction qui allait s'abattre sur leur royaume, etc. La plus jeune des deux va revenir au royaume et la Reine des Neiges elle-même, Elsa, va rester justement dans cette tribu. Sachez que Disney, qui a déjà créé un film d'animation pour faire la promotion des LGBT et qui était un grand flop, le film, je pense qu'ils ont dû débourser quelque chose comme 180 millions de dollars pour le film. Finalement, les recettes ont été inférieures à 20 millions de dollars, donc c'est une catastrophe financière. Eh ben, ceci ne les a pas dissuadés et ils vont normalement, je discutais avec mes enfants il y a quelques jours et c'est eux qui me l'ont appris, il va y avoir un numéro 3 de La Reine des Neiges qui est devenu une icône pour toutes les filles.
Oui.
Voyez comment les gens travaillent. Et dans le numéro 3, Elsa va devenir une LGBT qui va vivre avec la reine de cette petite peuplade primitive où elle a décidé de vivre. C'est comme ça qu'on...
Mais c'est connu que Malchekat, hein, on en a tellement tartiné au sujet des messages subliminaux sexuels sataniques dans les films et les dessins animés de Disney Channel, hein, et ça continue.
Bien sûr, ça...
Mais là, l'œil approbateur des parents, que Malchekat.
C'est ça le problème, c'est que les parents ne veulent pas prendre conscience de tout cela. Vous savez, ça commence par des petites choses. Vous avez des gens qui habitent, dans des quartiers populaires. Et puis vous avez l'enfant qui arrive à la maison, il a une coupe qui le fait ressembler à un mouton de l'Aïd. Une ouais. fois j'ai vu quelqu'un comme ça, j'ai dit, cette coupe-là, tu l'as faite chez un coiffeur? Il me dit oui. Et tu as payé? Il me dit oui. Je dis, moi j'aurais pu te faire ça, mais vraiment, mais gratuitement. Hein. Un massacre pareil, moi-même j'aurais pu te le faire. Et le père de famille et la mère de famille, vous lui dites, had cette coupe, le medjouch, haram nahi, le qaza' munha anhu. Nous n'avons pas le droit d'avoir des coupes comme celle-là. Elle vous dit, oui, il est jeune. Oui, il est jeune. Aujourd'hui, il est jeune. Et puis, demain, il commence à consommer du sarouh, de la drogue, etc. Il est jeune. Parce que ça a commencé par, non, laissez-le, il est jeune. Donc, c'est ça, le type, il dort jusqu'à 11 heures du matin. Il se réveille. Il y a sa sœur qui lui laisse un billet de 200 ou 300 dinars. Il y a sa mère qui lui donne la même somme. Et il est dans la rue. Il a de quoi boire 3 ou 4 cafés par jour. Il a de quoi alimenter son téléphone, il a de quoi acheter ses cigarettes et sa drogue quotidienne. Je suis désolé, ce n'est pas du tout viable. Ce n'est pas du tout viable. Donc les parents, il faut faire attention. Et puis les enfants, vous savez, nous avons une fois, je me souviens, c'était avec Dr Bardouane, Allah yarhamou, on devait faire une émission, comme c'était à l'époque, c'était Réflexion sur TV Coran. On devait parler de la diaspora algérienne à l'étranger nous en dit comment expliquer à nos enfants que Noël c'est haram, Meijouch. Alors on a donné comme conseil de ne pas aller vers la confrontation, c'est-à-dire ne dites pas à vos enfants de dire aux enfants des chrétiens que tout ça, ça n'existe pas, le Père Noël c'est une invention, c'est juste pour vous tirer des sous, etc. Et elle est là, l'hypocrisie occidentale. D'une part, on est laïque, il faut interdire les crèches et je ne sais quoi. Et d'un autre côté, on peut parler de Noël parce que ça, c'est du business. Pire encore, tout récemment, c'est on allume les cierges à l'occasion de Hanouka dans le Parlement français. On n'est plus laïque quand il s'agit du judaïsme. Donc, à un moment donné, je me souviens, le docteur Bardouane avait parlé, il a dit, vous savez, expliquez à vos enfants que la chose ne passe pas. Et ils comprendront, ne vous en faites pas. Si vos enfants vous aiment, s'ils voient en vous des modèles, ils vont comprendre. Et puis, essayez de trouver des substituts. Rien ne s'oppose à ce que le jour du Mawlid, par exemple, au lieu d'acheter des pétards, au lieu de brûler de l'argent tout simplement, rien ne s'oppose à ce que vous achetiez à vos enfants des cadeaux, des livres, etc. Des livres, tout simplement. Donc, vous savez, quand vous expliquez à vos enfants que la chose ne passe pas, que moralement on ne peut pas faire ça, eh ben ça passe tout simplement. Je le dis pour l'avoir pratiqué sur mes propres enfants. Ouais. Ils sont conscients, par exemple, que tel produit on ne doit pas l'utiliser, l'acheter, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé il y a à peine une semaine. Je suis allé acheter à mon enfant, à mon fils, parce qu'il a commencé à faire du football avec un club. Donc, il fallait lui acheter des souliers de foot. On trouve une marque qui fait partie des marques qui aident l'armée sioniste. Moi, je savais que c'était... Bon, je le savais, mais je voulais juste... Bon, choisis ce que tu veux. Il me dit, celui-là, il est beau, mais cette marque, on n'a pas le droit de le... Très bien. Et je lui dis même, attention, ça, c'est de l'imitation. C'est pas la vraie marque. C'est pas les gens qui ont fabriqué cette chaussure n'aident pas les sionistes. Il me dit, oui, mais bon, le principe est le même. C'est une marque. On ne la porte pas. On devait, normalement, on avait pour projet de l'emmener à Disneyland. Mais comme nous savons maintenant que Disneyland est dans une logique qui est défavorable, qui est hostile à tout ce qui représente le bon droit et la vertu, lui-même a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la discussion à l'intérieur de la maison. Parce qu'on explique aux enfants, et puis ils sont en train de voir la tragédie palestinienne. Ils sont en train de la vivre en même temps que nous. Eh bien, essayez tout simplement de faire ce travail. Et puis là aussi, je voudrais dire une chose. Tous ces Algériens qui aspirent à une vie meilleure et qui veulent aller vivre à l'étranger. El hijra, l'immigration dans des pays autres que musulmans. Elle n'est pas interdite, même si tous ces...
Parce qu'on a aboli le fait de dar al-kufr et dar al-islam.
Oui, les sclérosés du wahhabisme qui sont contre la cause palestinienne, qui ont démontré... Vous savez, je ne regrette pas... Oui, cet imbécile. Donc, je ne regrette pas d'avoir baptisé ce courant un islam judaïsé. Je ne le regrette pas du tout parce qu'il a prouvé que c'était un courant judaïsé qui ne travaille que pour... Et c'est des gens, excusez l'expression, qui carburent pour les sionistes, qui carburent pour le satanisme. Et nous le voyons au quotidien. Donc, la hijrata ba'd al-fath. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus d'immigration après la conquête de la Mecque, pour ceux qui étaient dans la Mecque. Mais ceux qui veulent aller vivre ailleurs, pour, ne serait-ce que pour des raisons pécuniaires ou financières, le problème ne se pose pas. Certains vous diront, oui, mais n'oubliez pas, l'imam Abdelhamid bin Badis a dit que c'était interdit en religion. Oui, c'était interdit à l'époque de la colonisation. Vous savez, il y a une fois, le Bachir l'Ibrahimi est venu dire à l'imam Abdelhamid ibn Badis, j'en ai assez, ça y est, je m'en vais. Il voulait partir, il voulait... La situation était telle qu'on devait se dire impossible de déraciner les Français de ce pays, impossible. Et là, l'imam Abdelhamid lui dit, écoute, venant de ta part et moi, ce serait considéré comme tourner le doigt à l'ennemi pendant la bataille. Tu n'as pas le droit de sortir d'ici. Personne n'a le droit de se naturaliser. Parce qu'on voulait effacer l'identité algérienne. Là, maintenant, nous savons que les gens ont le droit d'aller vivre là où la vie serait, on va dire, là où l'herbe serait plus verte pour eux, pour reprendre la fameuse expression. Mais actuellement, je suis désolé. Si vous êtes porteur d'un savoir-faire que les Occidentaux veulent, si vous êtes en mesure d'aller travailler en Occident parce que en Occident on vous offre une vie meilleure, vous n'avez pas le droit, d'un point de vue purement licite, d'emmener vos enfants avec vous. Parce que vous savez très très bien que ce que veulent les Occidentaux, ce n'est pas vous, ce sont vos enfants. Ils ont besoin de générations fraîches, nouvelles, pour parer au vieillissement de leur population. Et ces générations-là, elles vont être configurées pour adhérer à toutes ces idées du genre, des LGBT, de tout ce qui est hors norme, de tout ce qui est contre nature. Et vous n'avez pas le droit de mettre vos enfants dans cette situation. Quand on sait que dans certains pays dits évolués, on va commencer à imposer aux garçons d'aller une fois par semaine en robe ou en jupe à l'école, même si ça leur déplaît, je suis désolé, ça ne passe pas. Quand on sait que la majorité des musulmans auxquels on enlève leurs enfants, vous savez, on a enlevé des enfants à des musulmans, pourquoi ? Parce qu'ils avaient faim pendant Ramadan, parce qu'ils avaient tenté de faire un jeûne, même partiel. Ouais. Et l'enfant à l'école, il dit, j'ai faim, et pourquoi tu ne manges pas ? Parce que je suis à jeun, je fais on appelle l'assistante sociale, on enlève les enfants aux musulmans pour les donner à des couples LGBT. Si au moins on les donnait à des couples, on va dire catholiques, religieux, on les donne à des couples LGBT. Ouais. Et c'est des hécatombes qui sont en train de se produire dans ces couples. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires en justice. C'est terrible ce qui est en train de se produire. Alors je voudrais dire à tous ces Algériens qui font la chaîne devant l'ambassade canadienne et autres pour aller vivre là-bas, vous pouvez aller vivre là-bas parce que ça pourrait être arrangeant sur le plan financier pour vous. Mais vous n'avez pas le droit d'emmener avec vous vos enfants qui sont musulmans pour les jeter en pâture au diable et à ses adeptes.
Alors Kamel Chakat, je vous faisais réagir dans la deuxième partie de cette émission sur la chute du libéralisme et de la mondialisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abou Aissam Waddah Khanfar, le Palestinien expert en communication et chercheur en histoire, qui disait qu'avec ce que nous vivons, et c'est un moment historique pour toute la Terre, les musulmans sont en train de jouer et doivent jouer un rôle encore plus important.
Absolument, pour l'éveil des consciences.
Réellement, il y a eu chute du libéralisme et de la mondialisation qui est en plein collapse.
Oui, c'est inéluctable. Déjà, à la base, tout ce projet n'était pas du tout viable. Tout ce qu'entreprend Iblis n'est pas viable pour l'homme. Sauf que vous avez des gens qui, pour un intérêt éphémère, sont prêts à... D'ailleurs, on le dit, ils ont vendu leur âme au diable. Et ils veulent entraîner toute l'humanité dans leur sillage. C'est vrai que les musulmans sont à la croisée des chemins et ils doivent faire un choix. Ils doivent faire le bon choix. Mais s'ils décident de faire ce choix, qui est le bon normalement, ils doivent s'attendre à en payer le prix. La marchandise de Dieu coûte cher. Et la marchandise de Dieu, c'est le paradis. Les Gazaouis l'ont choisi. Remarquez, après tout ce qui s'est passé, avez-vous connu un peuple dans l'histoire qui ne se serait détourné et opposé à sa résistance pour tout le mal qu'ils sont en train de subir?
Ouais.
Eux, non. Plus les autres sont voraces, plus les autres sont criminels, plus ils sont déterminés justement à ne plus vivre sous le joug justement de ces...
Nasr au Shahada.
C'est ça. Ça a été dit par Azdin Qassam à son époque. Wa innahu la jihad, wa innahu la nasruna wa istishhad. Il y a deux choix. Il n'y a pas de troisième choix possible. Et puis là, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où cette idée des deux États n'a pas lieu d'être. Non, c'est un concert. Il faut faire une ablation. Il faut enlever ce concert, tout simplement. Et ça va s'enlever, qu'il le veuille ou non. Le problème, c'est
que... En plus de la malédiction de la huitième décade...
Oui, il y a tout converge. Toute cette histoire va nous plonger dans une nouvelle ère où nous allons commencer à vivre cette eschatologie dont nous parlions il y a à peine quelques années. C'est ça qui fait peur.
Mais c'est une suite logique des événements.
Tout simplement, c'est des gens qui ont réuni en eux-mêmes toutes les conditions du succès, toutes les conditions de la victoire. Et ils sont en train...
Ça y est. C'est ce qu'il dit.
En tout cas, écoutez, c'est ça. À l'heure actuelle, les Palestiniens ont vaincu. C'est bon. C'est bon. Maintenant, même si... Dans un mois, moins d'un mois, dans deux heures, dans je ne sais quoi, on va écraser Gaza de sorte à ce qu'il n'y ait plus âme qui vive. Vous savez ce qui va se passer? C'est le monde entier qui va devenir Gaza. Je voyais un post il y a quelques jours, c'est un anglo-saxon qui parlait, il a dit « Nous devons stopper le sionisme ». Et cet homme, quand il parlait du sionisme, il ne parlait pas de cet ignare, ce niais de Netanyahou et comparse. Il parlait du sionisme en tant qu'idée, il parlait du sionisme en tant que concept né dans l'église anglicane, chez les chrétiens. Il ne parlait pas de ce sionisme tel qu'il est perçu à travers les médias par le plus commun des mortels. Il a dit, si nous ne mettons pas fin au sionisme, nous allons tous vivre, s'il parle de l'humanité tout entière, nous allons tous commencer à vivre dans des camps, comme les camps palestiniens. Nous allons tous subir la même chose. Ils vont nous faire tous la même chose.
Justement, ce sont ces images-là qui ont choqué le monde, Kamal Chokat.
Absolument. Vous savez, vous prenez...
Ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée nazie de Tsahal.
Bien sûr, mais il n'y a pas que. Toute cette histoire, c'est une sombre histoire d'intérêt. On est allé en Afghanistan pour les... C'est ce que j'arriverai jamais à comprendre chez ces gens-là. On va 14 000 ou 18 000 kilomètres plus loin pour sauver la démocratie. Commencez à la sauver chez vous, subhanallah al-adhim. Vous savez, une fois, c'était en 2015-2016, c'était au moment où on allait voter en France la loi du mariage pour tous. J'avais un rendez-vous, je sortais du métro et voilà que je vois les gens courir une ruée comme ça. Ça m'a fait un peu peur. Et puis derrière, il y avait les CRS avec leur matraque en train de bastonner les gens, mais on se serait cru à Bogota. Et à un moment donné, je me mets sur le côté, il y a un policier qui me regarde comme ça, je sors mon passeport, je suis touriste, hein, j'ai rien à voir avec tout ça. Et à un moment donné, je me tourne vers une personne, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est un pays où la démocratie n'existe pas, nous sommes ici pour défendre le principe, le véritable principe du mariage. Nous sommes contre cette idée du mariage pour tous. Et voilà comment ces gens-là nous traitent. Et cette loi, le jour où elle a été votée à 2h du matin. C'est-à-dire à un moment où tout le monde était dans son sommeil pour qu'il n'y ait pas de remous, pour qu'il n'y ait pas de problème. Le lendemain, vous vous réveillez, on vous met devant le fait accompli. Le problème, c'est qu'avec ces gens-là, Là, l'exemple que nous donnons, il s'est produit en France, mais il s'agit de toute une organisation, de toute une, c'est un web, c'est une toile, oui, qui traverse, qui sévit comme ça à travers le monde. Donc, il faut être vigilant. Et puis, quand on parle des gens de Gaza, n'oublions pas que ces gens-là ont réuni en eux. Ils ont réuni en eux toutes les conditions de réussite. Nous, si nous voulons vraiment être présents, ou si nous voulons réussir, il faut d'abord être présent et il faut tenter de réunir en soi-même toutes ces mêmes conditions de réussite.
Alors que M. Kat, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission d'aujourd'hui, la sixième consacrée au Messie. Est-ce que nous sommes dans ce qu'avait prédit le prophète alayhi salat wa salam, une ère, une époque, yakun fihi fustat la nifaqa fihi wa fustat la imana fihi? Alors je lis aux auditeurs, vous connaissez le hadith Kamal Shakat, rawa Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu al-Hakim wa aqarrahu al-Dhahabi an Abdullah ibn Umar yaqulu kunna qu'udan 'inda Rasulillah fa dhakara al-fitana fa akthara fi dhikri حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. Et beaucoup de spécialistes et de connaisseurs de la religion disent que ces fitnes, on les a passées, que fitnatu duhayma, c'est justement cette série de Rabi' al-Ibri, Kamal Shakat. Fustatain, Fustat l'Iman ou Fustat l'Nifaq?
Je pense que, justement, il n'y a pas de Fustatain, il n'y a pas de zone franche. La chose n'est ni blanche ni noire, elle est à 90% grise. Ouais. Donc c'est vraiment une période très très trouble. Attention, quand on lit ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas transmis tout cela pour les prendre pour argent comptant et essayer de corriger le tir en fonction de ce qui a été dit. Et c'est pour ça que, vous savez, quand nous ne sommes pas dans la même logique que celle des juifs et des chrétiens. Ils ont une eschatologie et ils travaillent dessus. Nous avons une connaissance, ils la fabriquent, bien sûr. Nous avons une connaissance d'un certain nombre de points liés, inhérents à l'eschatologie, et nous essayons, le but est de se prémunir justement contre tout ce qui est mauvais de ce qui a été relaté par le messager de Dieu.
C'est le moment donc de se réformer, Kamal Shakat?
Le moment de se réformer pour un musulman commence dès lors où on a atteint sa majorité, sa puberté, jusqu'au dernier jour. Les premiers musulmans, ceux qui ont vécu l'époque de la révélation, avaient pris en considération tout cela et se prémunissaient déjà à leur époque contre le Dajjal. Alors qu'il savait très très bien qu'il n'allait pas émerger du vivant du messager de Dieu.
Peut-être pas Kamal Shakat, parce qu'on a pensé qu'Ibn Sayyid était le
Dajjal.
Oui,
mais bon, nous parlons du Dajjal quand il viendra pendant ces fameux 40 jours où il mettra le monde sans dessus-dessous et qu'il sera anéanti à la fin par Sidna Isa alayhi salam. Les premiers savaient très très bien qu'ils étaient quand même assez loin, mais cela ne les a pas empêchés de se prémunir contre l'épreuve du Dajjal. Nous ne le faisons pas. Nous lisons ça, nous consommons toute cette littérature, nous sommes friands de tout cela, alors que non, nous ne sommes pas en phase de regarder un film fantastique. Il faut vraiment se conformer au décret de Dieu pour ne pas tomber justement dans ses travers. Ce hadith, moi, je vous propose de l'étudier dans de lui consacrer une émission, tout simplement.
La prochaine, peut-être.
On le prendra, on commencera à le décortiquer, on fera des parallèles entre ce que nous connaissons de l'eschatologie musulmane avec ce qui est dit dans les deux eschatologies dites judéo-chrétiennes, bien que ce mot soit carrément un non-sens.
Oxymorique. Très bien. Alors, je termine juste avec une bribe donc de la déclaration d'indépendance des États-Unis, Kamal Shakat. Il faut bien s'en inspirer. Nous tenons pour évidente pour elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
L'homme ici ne signifie pas l'homme tout court. Hein. Ouais. C'est l'homme blanc qui parle anglais, qui est chrétien.
Eh bien, c'est ainsi que se termine le numéro d'aujourd'hui. Oui. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire un tour du côté de x.com. Merci à vous tous. Au revoir.